48 FM.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de La Lorgnette. Une émission un peu spéciale puisque je remplace aujourd'hui exceptionnellement Ludo. Mais c'est surtout une émission qui rentre dans le cadre de Aime Lire en fait, qui a pour thème cette année littérature et cinéma. Et c'est ce qu'on va essayer de détailler un petit peu aujourd'hui. Voilà le programme de cette 40e émission de La Lorgnette. Et pour me faciliter la tâche, je suis avec l'équipe habituelle, le trio de choc. Héloïse.
Salut tout le monde.
Valérie est là aussi.
Salut.
Et Pauline.
Salut tout le monde.
Hop. Alors j'espère que le son va bien, c'était un peu la course à midi.
Hop. Très peu.
Donc tout est réglé, très peu. Valérie, tu as bossé...
Dur. Et très très dur.
Et tu piques les infos des autres.
Non, j'ai pas piqué les infos des autres, mais on va laisser commencer Héloïse parce qu'elle a fait une super chronique. Parce que c'est assez indigeste ce que je vais vous raconter, donc on va le garder pour le milieu.
Bon, d'accord. On le garde un peu pour plus tard, commence par Héloïse. Il
n'y
a pas
bien.
De souci.
Hein, tu te vends bien.
C'est Bukowski quand même. Non,
c'est très bien amené. Mais il n'y a pas de souci si Héloïse est prête.
Elle est impatiente à trépigner.
Je vais bien commencer, oui. Je vais parler de deux adaptations... du coup, de romans en film. Une adaptation que je trouve totalement réussie et une totalement ratée. Voilà, comme ça, on fera la comparaison. Donc, oui, d'abord, on pourrait parler un peu des adaptations littéraires au cinéma qui sont vraiment très, très courantes. Depuis le début du cinéma, il y a beaucoup de choses qui sont adaptées et les cinéastes s'inspirent des œuvres littéraires. Et après, il y a aussi ce qui est drôle, c'est que des fois, il y a des films tirés de romans, mais qui sont plus connus que les romans maintenant. Par exemple, Les oiseaux d'Hitchcock. C'est, à la base, c'est une nouvelle de Daphné de Maurier, qui est une auteure assez connue quand même.
Maurier, s'il te plaît.
Maurier.
Je le prononce
pas moi,
mal.
C'était Héloïse, en fait.
C'était Héloïse. De même que La soupe aux choux, par exemple, c'est un roman à la base.
Ah
ça,
bon,
la soupe aux choux, personne ne sait.
Mais moi, je ne savais pas.
Étonnant à la
lecture. Pour faire...
Non mais voilà. Et donc du coup,
comment ça s'écrit ça du coup?
Comment ça s'écrit?
Ouais.
Ah oui, je l'ai à la librairie. Ah. Je l'ai depuis 3 ans. Personne ne me l'a jamais acheté.
C'est incroyable. Mais tu l'as pas fait en avant peut-être.
Donc voilà. Et il arrive souvent, et effectivement, je pense qu'on va en parler aussi, c'est qu'on soit un peu déçu des adaptations de nos romans favoris. Et ça, c'est un phénomène qui arrive régulièrement, parce que je pense aussi que dans un roman, c'est vrai qu'on se forme sa propre image, des personnages, des décors, etc. L'imagination est beaucoup sollicitée, alors que dans un film, c'est vrai qu'on nous offre directement à l'œil l'adaptation et l'interprétation du réalisateur. Du coup, c'est vrai qu'il arrive que des fois, on soit déçu et des fois, on soit totalement transporté, parce que ça correspond à ce qu'on a imaginé ou c'est même encore mieux. Voilà.
Oui, parce que la différence, c'est tout bête, en fait. On a soit les dialogues ou en tout cas le texte, donc vraiment le scénario en lui-même, sauf que le fait que ce soit un film, on a directement les images et on peut plus imaginer quoi que ce soit.
Exactement.
Puisque c'est comme ça. Et on se dit, ça c'est la vraie, entre guillemets, histoire, et c'est son blouson est de telle couleur et c'est terminé.
Mm-hmm.
Alors que c'est vrai que en lecture, on s'imagine des tas et des tas de choses, et j'ai l'impression qu'il y a une dominance au final où c'est très rare quand l'adaptation en film se passe bien, que c'est positif, et on se dit, en fait, c'est comme ça que j'avais imaginé.
Ouais,
j'ai l'impression qu'il y a...
C'est vrai que c'est rare.
Ouais, c'est plus dans ce sens-là, je pense. Ouais.
Donc voilà, et c'est pour ça que c'est bien quand même de lire les œuvres littéraires avant, les romans, parce qu'après, j'imagine que si on voit le livre avant, et tout de suite, dans notre tête, en fait, les personnages du film se seront imposés directement, donc c'est pas mal de le faire dans le bon sens. Donc moi, je vais vous parler du coup d'un de mes romans préférés. c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen.
Orgueil et Préjugés ou Orgueil et Préjugés et Zombies?
Non, juste Orgueil et Préjugés, on va être classique aujourd'hui.
Parce qu'ils l'ont fait un film maintenant.
Oui, tout à fait.
J'étais sûre que t'en parlerais.
Et j'ai pas vu le film en fait, je pouvais pas en parler.
D'accord. Ouais.
Donc non, je vais parler vraiment du roman de base de Jane Austen, Orgueil et Préjugés, son roman le plus connu. Et de son adaptation, parce qu'il y en a eu une dizaine d'adaptations en fait de ce roman. Mais moi, je vais vous parler de l'adaptation réalisée par la BBC en 1995 avec ce cher Colin Firth que j'adore. Et donc, c'est une mini-série qui dure à peu près 300 minutes. Voilà. Donc, je vais vous parler un peu de l'histoire quand même d'Orgueil et Préjugés, même si c'est un classique, tout le monde ne connaît pas. Donc, ça se passe dans un petit village anglais appelé Longbourne. Et on y trouve Madame Bennett, son mari et leurs 5 filles. Il n'y a que des filles, ils ont eu que des filles dans la famille. Et Madame Bennett est bien déterminée à marier toutes ses filles, et de préférence avec un homme évidemment qui soit d'une bonne situation, qui soit riche pour tout dire. Parce que la famille a quelques difficultés financières. Et donc voilà, ça permettrait de renflouer un peu les caisses familiales. Après, la famille Bennett font totalement partie de la bourgeoisie locale et ils participent au bal, etc. Ils sont désargentés, mais ils participent toujours à la vie locale. Et donc, il y a un jeune homme qui s'installe dans le voisinage, Monsieur Bingley. Un jeune homme riche, de bonne famille. Et donc, tout de suite, la mère hystérique voit tout de suite une de ses filles avec ce charmant jeune homme. Il est accompagné d'un de ses amis qui s'appelle Monsieur Darcy, qui lui est pas très avenant, il est très riche, encore plus riche que M. Bingley, mais il est orgueilleux, il aime pas danser, il critique la société locale, enfin, bon, il est pas très apprécié à Longbourne. Et donc, les deux personnages principaux, en fait, sont M. Darcy et Elisabeth, une des filles Bennett, qui observe tout avec un regard très cynique et qui a beaucoup d'humour et qui est très féministe et qui prend vraiment en grippe ce M. Darcy. Voilà, donc nous suivons tout ce petit monde avec délectation. C'est un livre vraiment très drôle, cynique et critique sur la société de l'époque. Donc comme je disais, c'est également féministe. Oui, ça a été écrit au 19e siècle, j'avais oublié de le préciser. Donc voilà, c'est aussi surtout une très très belle histoire d'amour. Voilà, donc c'est un de mes romans préférés. Je l'ai lu très souvent, c'est un peu un livre comme un doudou pour moi. Dès que je ne me sens pas bien, j'en lis quelques pages, etc. Donc c'est vrai qu'il faut que l'adaptation soit bonne. Et j'ai été déçue par pas mal d'adaptations, mais pas par celle-ci. Celle de Sue Bertwistle et Simon Langton, donc pour la BBC. C'est une adaptation vraiment parfaite, que ce soit au niveau des costumes, des lieux choisis pour le tournage. Les acteurs incarnent parfaitement, à mes yeux, les personnages du livre, avec beaucoup d'humour et de sensibilité. Et je pense que je peux être que dithyrambique par rapport à cette adaptation. Et je pense que Jane Austen n'aurait pas craché dessus. Voilà. Pour ma première...
Comparatif.
Voilà. Exactement.
Mais pour le coup, Jane Austen, c'est hyper adapté.
Oui.
Orgueil et Préjugés, c'est hyper adapté. Tout Jane Austen, c'est du délire. Mm-hmm. Il y en a partout pour tous les goûts. Il y a du bon comme du mauvais.
Oui. Mais d'ailleurs, Bridget Jones, c'est une libre adaptation d'Orgueil et Préjugés, par exemple. Mm. Et je trouve plutôt drôle.
Oui, c'est assez réussi, pour le coup. Mm-mm.
Tu avais un deuxième...
Oui, j'en parle tout de suite ou quelqu'un...
Comme tu veux, si tu es un peu pressé, tu peux.
D'accord,
comme ça,
okay.
Tu sais que tu es libre. Mais,
c'est comme tout ça. Après, on te libère.
Bon, ben, j'ai parlé alors d'une autre adaptation, mais pour le coup que je trouve très mauvaise. C'est l'adaptation de Ça, le roman de Stephen King.
Quelle horreur.
Donc, effectivement, quand on évoque ce livre, tout le monde pense à un clown tueur en série.
Qui sort des caniveaux.
Qui sort
avec
des
ses dents, avec ses dents pointues, qui attrape les chevilles et dépasse.
Enregistré en cassette, qui passe en mauvaise qualité, qui font encore plus la trouille.
C'est ça. Exactement. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout, c'est pas si simple que ça. Ça n'est pas qu'un clown. Ça est une entité monstrueuse qui, dans le roman, en fait, se transforme en ce dont on a le plus peur au monde. Vraiment, il va puiser dans la peur la plus enfouie des enfants et il se transforme en ce quelque chose. Alors effectivement, ça peut être un clown ou ça peut être un oiseau géant ou un monstre quelconque. Ou voilà, donc, et l'adaptation, ils ont vraiment simplifié en fait ce roman qui fait quelques 2000 pages, je crois,
oui,
qui
est énorme. C'est énorme, ouais.
Et ils ont vraiment simplifié la chose. Et je trouve ça très dommage parce que c'est un livre, moi, que j'ai adoré. C'est mon roman préféré de Stephen King. Ça parle d'une manière vraiment touchante de l'enfance, de l'amitié aussi, des problèmes qu'on a quand on est ado. Et c'est vraiment effrayant aussi. Ça fout les chocottes. Alors que moi, le film, bon, bah, j'étais vraiment déçue. Parce que moi, ça m'a pas fait peur, j'ai trouvé ça assez ridicule même.
Mais t'avais quel âge quand tu l'as vu, ça t'a pas fait peur?
je l'ai vu il y a quelques années, j'étais pas si jeune que ça. Moi, j'ai d'abord lu le roman, ouais. Donc voilà, donc j'étais assez déçue. Après, je place tous mes espoirs dans une nouvelle adaptation qui va avoir lieu à l'automne 2017, réalisée par Anthony Muccietti. C'est un jeune réalisateur argentin de films d'horreur. Il a fait notamment Mama. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Voilà. Et il y aura notamment Finn Woolhard, qui jouera un des enfants de ça, parce que c'est un groupe de 7 enfants dans le livre. Et donc, c'est un gamin qui a joué dans cette série dont on a beaucoup parlé cet été, qui s'appelle Stranger Things, qui est une série très chouette que je vous conseille vivement. Dans le fantastique, une espèce d'éloge des années 80 avec une esthétique bien particulière et notamment beaucoup de références à Stephen King. Donc voilà, il y aura plein de chouettes gamins et ce sera en deux parties et j'espère que ça sera cette fois à la hauteur du roman. Voilà.
Et bien, on fera un point du coup à l'automne prochain.
Tout à fait.
Pas de souci. merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner ou je...
Allez.
Valérie lève la main.
Oui, c'est ça, parce que là, Héloïse vient de parler d'un film qu'elle trouve avoir été très très mal adapté. Et moi, très rapidement, parce que je vais pas beaucoup en parler, parce que j'ai pas mes notes avec moi pour changer. Non, j'ai 4 livres que j'ai, enfin 5, mais il y en a un qui est trop classique. C'était le parfum de Susskind que j'ai trouvé, mais parfait entre le livre et le film. Et j'ai ressenti exactement les mêmes choses. Si ce n'est que je ressentais moins les odeurs en voyant le film qu'en lisant, mais je pense que c'est une des plus belles réussites de mon point de vue entre la lecture et la vision du film.
Il y a qui dedans, du coup? J'ai aucune idée dans le film.
Ouais. Je connais pas du tout la distribution, mais j'ai le DVD, je te le ferai passer. Voilà. Mais sinon, il y en a un particulièrement que j'ai trouvé extraordinairement bien fait. Il est assez récent et c'est un livre que j'avais dû lire à la fac. Donc ça avait été très laborieux. Par contre, c'était The Great Gatsby. Gatsby le magnifique. Donc quand je l'avais lu à la fac, ça avait été l'horreur puisque c'était la première année et je trouvais ça très 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 compliqué de lire Nils Fitzgerald lors de la première année. Et après je l'avais mis un peu de côté. Après il a été traduit donc en français, je l'ai relu et là j'ai dit ah mais oui, j'avais pas compris ça, ah mais j'avais pas saisi. Et là déjà rien que le livre en lui-même, ça m'a vraiment beaucoup plu, cette ambiance en évain, ça se déroule dans les années 20, donc Gatsby, c'est un ancien aventurier un peu milliardaire qui organise des fêtes somptueuses. Et c'est l'histoire d'amitié qu'il va avoir avec son nouveau voisin qui habite la maison juste à côté. Enfin, c'est vraiment à partir de cette histoire-là. Et le film donc a été tourné, je crois, l'année dernière avec Leonardo DiCaprio. C'est somptueux. Et dans le film, on revoit bien les décors, les voitures,
les
tenues.
Robes, ouais.
C'est des fêtes pas possibles. Et j'ai trouvé que c'était... c'est pas un livre ou un film qui a un intérêt social énorme, puisque on n'apprend rien d'intéressant, ça fait pas forcément réfléchir. Mais c'est vraiment quelque chose de fort sur l'histoire, sur voilà les habitudes dans les années 20. Et ça m'a vraiment transcendé.
Ah ouais, c'est vrai que le film est vraiment magnifique, drôle. Il retranscrit bien effectivement le texte de Fitzgerald.
Ouais, moi j'ai vraiment adoré. Ouais.
C'est quelque chose que tu conseilles?
Ah oui, oui, et c'est, enfin, bon, et pour Leonardo DiCaprio dans le film, et après peut-être plus le livre que le film en premier, pour pas, voilà, comme on disait tout à l'heure, pour
se forger l'imagination.
Ouais, ouais, parce qu'après c'est vrai qu'il peut y avoir quelques déceptions, mais c'est quand même très très bien retranscrit. Enfin, c'est très fidèle au livre.
Et il me semble même qu'il en rajoute quand même dans le film par rapport aux fêtes qui sont plus que dans le livre, j'ai l'impression.
Dans le livre, c'est peut-être un peu plus soft, un peu plus. Ouais. Ben, il semble un peu plus fauché rapidement dans le livre. Mais voilà, mais c'est. Moi, je suis. Même, j'aurais pas été voir ce film si j'avais pas lu le livre. Je pense que ça m'aurait pas attiré de voir une affiche bling-bling avec un Leonardo DiCaprio tenant une coupe de champagne. Ouais. Ça m'aurait pas. J'aurais pas donné mes sous pour aller voir au cinéma. Mais en ayant lu le livre avant et l'ayant apprécié, c'était vraiment une belle expérience.
Voilà. Parfait, mais super. On retient en tout cas le nom.
Et sinon, juste, on vient de me prévenir qu'il y avait Dustin Hoffman qui jouait dans Le Parfum. C'était le parfumeur sur le pont quand il est descendu à Grasse et quand tout s'effondre après. Quand il va faire ses classes, pas à Grasse, où est-ce qu'il part après, en Italie, je crois. Voilà, c'était un parfum.
Ben merci à la personne qui nous écoute.
Exactement.
Merci Eric.
Alors moi, je vais vous parler d'une trilogie, en fait. J'ai lu seulement le premier tome, mais c'est une trilogie.
Et les meilleures trilogies sont en trois parties.
Exactement.
Ça m'a fait beaucoup rire un jour, on m'a dit ça.
Et ça s'appelle Cœur d'encre, en fait. Cœur d'encre, donc c'est un livre que j'ai lu maintenant il y a pas mal d'années, hein, mais pour lequel j'avais en fait gardé un très bon souvenir, un excellent souvenir, et qui a forcément été adapté quelques années plus tard en film. Et ce livre est sorti, donc a été publié en 2003. C'est un roman d'aventure, un roman fantastique qui a été écrit par Cornelia Funke, qui est allemande. Et donc voilà, c'est le premier tome de cette trilogie, et voilà, donc j'ai pas lu les autres, mais le fait d'en reparler pour cette émission, de m'être comment dire,
replongé dans,
voilà,
l'univers,
ouais, c'est un petit peu ça, ça m'a donné envie de pousser un peu plus, peut-être lire les deux tomes suivants, hein, pour l'histoire de Maggie. Donc c'est le résumé que j'ai trouvé, c'est je vais vous le lire. Maggie, qui a 12 ans, vit seule avec son père, Mo. Comme lui, elle a une passion pour les livres. Mais pourquoi Mo ne lit plus d'histoires à voix haute? Ses livres auraient-ils un secret? Leurs mots auraient-ils un secret? Un soir, un étrange personnage frappe à leur porte. Alors commence pour Maggie et Mo une extraordinaire aventure, encore plus folle que celle que racontent les livres. Et leur vie va changer pour toujours. Lire n'a jamais été aussi fascinant et dangereux. Donc en fait, on va se plonger dans une histoire qui est assez particulière. C'est pas tout à fait le fait d'écrire, où on en avait parlé pour des BD, je crois que c'était il y a quelques émissions en arrière. C'est pas écrire quelque chose dans un livre qui va les faire apparaître, etc. Mais là, c'est vraiment de le lire à voix haute, et on va soit nous se plonger dans l'histoire du livre, soit l'histoire du livre va venir à nous. Donc ça dépend un petit peu du... Sauf qu'ils ont Cœur d'encre, c'est le livre qui est recherché, notamment par le père, Mo. Voilà, c'est le but un petit peu de l'histoire, c'est retrouver ce livre-là en question. Mais pour aller un peu plus, pour préciser un peu plus, un beau matin, Maggie découvre que son père est recherché par de dangereux individus, car Mo a le don de rendre vivants les personnages de ses lectures, et notamment de l'ouvrage Cœur d'encre. L'un de ses personnages, Capricorne, a ainsi pu surgir du monde réel et est devenu très puissant, et il souhaiterait retrouver celui qu'il appelle Langue Magique à cause de son nom. C'est ce qui le fait fasciner, il se dit « Je pourrais vraiment être vivant à 100% si je retrouve cette personne. » Donc c'est un peu... faut pas trop que je détaille. Commence alors une extraordinaire aventure où l'on croise des monstres méchants, mais également des personnages de livres bien sympathiques pour retrouver enfin l'auteur de ce fameux livre. Puisque tout est axé autour de ça. Mais voilà, je peux pas trop en dire, sinon ça serait gâcher le plaisir pour les futurs lecteurs. Mais c'est donc voilà, c'est un livre qui a une dominance, c'est quand même junior, hein, qui a cette dominance-là. C'est accessible dès 10 ans, c'est ce que j'ai vu sur différents retours en tout cas. Mais qui fascine quand même les plus âgés aussi. J'ai eu pareil dans les commentaires, les critiques, etc. Des personnes de tout âge qui sont tombées un peu amoureux de cet esprit. C'est pas forcément quelque chose qu'on voit, qu'on connaît dans tous les autres romans, tout ce qui se fait habituellement. C'est une autre approche et autour de cette construction-là, elle arrive quand même, Cornelia Funke, à mettre son univers qui je trouve, moi, très attachant. Et c'est pour ça, même avec quelques années de décalage, je pense que je me replongerai assez facilement dans ces histoires-là. Et ça sera, je pense, avec un grand plaisir. Donc, pourquoi pas en reparler dans quelques temps, on verra ça. Mais voilà, c'est un peu l'entre-deux. Donc, c'est forcément pour les ados en premier lieu, mais ça intéresse tout le monde. Et j'ai vu hier, en fait, le film.
Coïncidence puisque... Je ne crois pas.
Je ne crois pas non plus. Non, qui, du coup, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que d'habitude, j'aime pas trop faire, aller le voir en film, parce que, comme on le disait au tout début, on a tendance plus facilement à être déçu, puisque l'imagination est bien plus importante que ce qu'on nous propose en visuel. Mais là, c'est un film anglo-germano-américain, donc qui est sorti en 2008. C'est grosse production quand même. On s'y retrouve, mine de rien, on s'y retrouve, mais c'est un livre qui a ses conséquences. Je sais plus, c'était 600-700 pages, juste pour le premier tome. Résumé en une heure et demie, c'est assez compliqué. Et le seul, au final, point négatif que j'ai trouvé, c'est juste que dans mon imagination, sur le livre, je le trouvais un peu plus, comment dire, à une période reculée,
oui.
Alors que le film nous propose directement tout ce qui est voiture, les machins, on a l'impression que ça s'est passé hier, alors que le film, on aurait dit que c'était un peu plus intérieur.
Oui, c'est dingue quand même de changer comme ça d'époque, c'est un gros changement par rapport au livre du coup.
Ouais. Mais après, c'est peut-être mon ressenti, parce que j'ai relu que quelques résumés pour reparler un petit peu de ce livre, mais c'est peut-être le vieux souvenir de mon imagination. Alors que Ludo revient dans le studio. Et donc voilà, en tout cas, c'était Cœur d'encre de Cornelia Funke. Et la trilogie suit en fait, le premier c'est Cœur d'encre, ensuite c'est Sang d'encre, et le troisième c'est Mort d'encre. Donc c'est très intéressant.
Il y a eu trois films du coup?
Alors ça, je n'ai pas eu le temps de regarder.
Je ne suis pas sûre qu'ils aient continué.
Il ne me semble pas. Mais pour en avoir un tout petit peu parlé avec toi, Pauline, tu avais un autre regard aussi sur ce livre.
Alors moi, personnellement, je n'ai pas été curieuse forcément de la suite. Ça ne m'a pas accrochée, mais je sais que... Donc moi, je travaille dans un collège, je gère en partie un CDI, et c'est un livre qui a du succès auprès des jeunes. Vraiment du succès, je pense que ça les fait rêver, ça les emporte, c'est une véritable aventure. Et que pour le coup, il y a vraiment un public pour ce bouquin-là et ça fait rêver beaucoup de monde. Donc mon avis, il est complètement personnel, je pense qu'il n'est pas du tout partagé par tout le monde.
Et oui, c'est une tendance, c'est vrai, d'adapter les livres à succès pour ados, il y en a beaucoup. Hein,
oui.
Et ça va de plus en plus vite, sans parler d'Harry Potter, etc. Mais le Labyrinthe, Divergente, Hunger Games, c'est vraiment une tendance en ce moment hollywoodienne d'adapter les romans ados à succès,
oui. Oui, il y a un côté s'assurer un public, je pense, déjà. Et en plus, c'est souvent des romans qui s'adaptent bien. Finalement, Hunger Games, le résultat est bien au cinéma. Ça donne quelque chose. C'est assez cinématographique, on va dire.
Comme les Twilight et les trucs comme ça.
Voilà, tout ça. Oui, c'est des choses qui s'adaptent bien, je pense.
Non, je ne les ai pas lues.
Je les ai lues et vues.
Ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai peur des vampires.
Et pour quelque chose comme ça, aussi conséquent justement que Twilight, qu'est-ce que tu as préféré ? Le film, de le lire ?
Ah, c'est difficile. Ouais. Moi, je suis très bon public pour Twilight. J'ai apprécié les livres, j'ai apprécié les films. Je suis bon public autant pour les livres que pour les films. Donc, je fais peu le lien, je pense, entre le livre et le film. Là, on parlait avec Valérie hier du liseur. Moi, j'ai été bouleversée par le livre.
j'ai été bouleversée par le film. Toi, ça n'a pas vraiment été le cas. Le film, tu l'as trouvé loupé.
Ah, le film, je t'ai dit, mièvre.
Ouais, tu vois. Et moi, je pense que j'arrive à voir chacun de leur côté. Ça m'a fait la même chose, Les Fils de l'Homme. J'ai lu le livre, j'ai vu le film. L'histoire, en plus, diffère de l'un à l'autre. Mais ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Je vois ça comme deux objets différents. Après, bon, c'est vrai qu'on retrouve souvent, de toute façon, les mêmes histoires en film, en livre, même si c'est pas tiré l'un de l'autre, c'est bon, on a des scénarios qui se retrouvent un peu partout, mmh. et du coup je coupe en deux, je pense, et du coup je suis rarement déçue par le film ou déçue par le livre.
Parfait, ben écoute, on va voir ce que tu nous proposes juste après la pause musicale. On va faire la pause musicale, ça, avec Chinese Man. On se retrouve dans quelques minutes.
Et allez, on est reparti, et c'est moi qui prends la suite. Bon, ça s'est bien passé, il a été sympa avec vous.
Ouais, il a été gentil.
Il a été gentil, bon, ben.
T'as pas écouté ?
Ben non, j'étais avec la secrétaire d'État en charge du numérique. J'ai un peu de mal à brancher ma radio. Et oui. Littérature et cinéma, et oui, c'est le thème d'Aime lire et on participe à cette opération avec ce par le bout de la lorgnette. Ma chère Popo, ma chère Pauline, dis-moi alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter ?
Ça a pris vachement de temps, un peu comme Valérie. J'ai réfléchi à un million de trucs. J'ai pensé à La Route, j'ai pensé à La Couleur Pourpre. J'ai même pensé à Twin Peaks qui va sortir normalement bientôt. Et il y a deux bouquins qui accompagnent la série qui sont pas forcément très connus. Tous les enregistrements de Dale Cooper, vous savez, alors je sais pas si vous voyez la série, ouais, mais la série, on a l'enquêteur qui s'enregistre tout le temps, là, qui fait son petit truc dans son magnétophone. Tout ça, c'est disponible en bouquin. Il y a aussi le journal de Laura Palmer. Donc c'est des choses là un peu différentes parce que ça complète la série. Et puis finalement, pour changer, j'ai opté pour un roman jeunesse.
Ça, tu peux pas te déchirer du travail.
Le Parfum aussi, tu voulais présenter, t'hésitais.
Le Parfum, non, il y avait Valérie qui pensait un peu, mais...
On avait dit que c'était trop prévisible.
Des trucs super prévisibles, et je me suis dit, bon, on va essayer de sortir un peu de ce qui est prévu. Et du coup, je vais vous parler de Maintenant, c'est ma vie. De Meg Rozoff au livre de poche. Donc je vais vous dire trois mots du début. Elle commence en nous disant « Tout a changé l'été où je suis partie en Angleterre, un peu à cause de la guerre et surtout à cause d'Edmond. » Donc c'est Daisy qui nous parle, c'est une adolescente qui vit à New York. Sa mère est morte en la mettant au monde et son père s'est remarié avec sa belle-mère Davina la diabolique. Et ils vont avoir un enfant et du coup, dans le petit appart new-yorkais, Daisy est devenue un petit peu encombrante. Donc, son papa et sa belle-mère ont décidé de l'envoyer pour l'été, passer l'été chez ses cousins en Angleterre. Donc, ses cousins qu'elle ne connaît absolument pas. Elle a vu de vagues photos, mais bon, l'Angleterre ne connaît pas, ses cousins ne connaissent pas. Donc, elle va débarquer là-dedans, déjà mal à l'aise avec elle-même et mal à l'aise de débarquer là-bas.
Et sous fond de guerre, en plus.
Alors, pour l'instant, rien du tout. Ah. Oh, tu dévoiles...
Mais non, c'est parce que tu l'as dit au début.
Ah oui, je l'ai un peu dit au début,
Tu as dit à cause de la guerre et d'Edmond, donc...
Elle le dit un peu au début, Donc voilà, elle arrive dans cette petite maison de campagne, isolée dans l'Angleterre profonde. Alors, c'est un peu idyllique, il y a des animaux. Donc elle arrive, il y a sa tante Pen, donc il n'y a pas d'oncle à l'horizon, la fratrie, donc trois frères, une sœur... Et elle arrive, donc cette fille unique, un peu détestée par sa belle-mère, délaissée par son papa. Et elle se retrouve dans cette famille qui est hyper aimante, super spontanée. Voilà, ils sont très simples, ils aiment la pêche, ils aiment la nature, ils sont scolarisés à la maison. Enfin, c'est un peu un cadre un peu merveilleux. Finalement, de sa tante Pen, on ne saura pas grand-chose. C'est la sœur de sa maman, puisqu'elle doit partir pour donner une conférence à Oslo sur la fameuse menace de guerre imminente. Finalement, on fait qu'en parler depuis 5 ans de cette guerre, mais elle arrive jamais. Elle menace. Mais bon, nos Daisy et les petits jeunes, bon, ils s'en inquiètent pas du tout. De toute façon, ils sont ados. Ils ne se sentent pas vraiment concernés. Donc, les cinq enfants se retrouvent tout seuls. Et ils profitent un peu de leur indépendance. Et finalement, cette guerre qu'on ne voyait pas tant que ça venir éclate, sérieusement. Il y a de gros attentats à Londres et là, c'est le début, alors on ne le dit jamais, mais d'une troisième guerre mondiale. Donc eux, ils sont tous les uns, ils sont isolés dans leur campagne. La tante Pen, évidemment, tous les moyens de transport, c'est terminé, ça bouge plus. La tante Pen est coincée à Oslo et ils se retrouvent tout seuls. Et finalement, ils vivent une période un peu merveilleuse parce qu'ils sont dans la campagne. Donc eux, ils voient pas du tout ce qui se passe. Ils entendent un petit peu, mais bon, ils sont jeunes. Alors, c'est la liberté totale, c'est du bonheur. Vraiment la liberté absolue entre jeunes. Et puis bon, Daisy et Edmond, bien que cousins...
Edmond, c'est qui ? J'ai pas...
C'est son cousin, pardon. C'est un de ses cousins, d'accord. Oui, j'ai peut-être pas, j'ai pas, non, pas non, fait le lien.
Non, c'est peut-être dit, mais je n'ai peut-être pas écouté.
Mais voilà, loin de tout le monde, de toutes les petites conventions, vont finalement finir par se rapprocher. Vous vous en doutez bien, l'horreur va finir par les rattraper. Ouais. C'est-à-dire que dans un premier temps, leur maison va être réquisitionnée pour l'effort de guerre et eux placés dans des familles d'accueil, entre guillemets. Et c'est pareil.
Valérie.
Pardon.
Zut, flûte, on dit. Crotte, à la limite, crotte, on accepte.
Ouais. Okay. Donc la jeune Daisy, elle va se retrouver avec sa petite cousine Piper de 9 ans. Et son seul objectif, ça va être retrouver les trois frères qui ont été séparés. Donc.
dans le roman, c'est un roman jeunesse, hein, je le rappelle. Elle parle de faits quand même très graves. Il y a des moments vraiment très durs hein, sur voilà, une jeune qui se retrouve seule face à la guerre, seule loin de sa famille, loin de ses parents. Mais c'est raconté très sobrement. Elle analyse pas, c'est pas un truc. Voilà, Et elle observe tous les soldats qui se retrouvent dans cette guerre sans vraiment comprendre où ils sont. La soi-disant justice qu'on met en place sous prétexte d'une guerre. Et du coup, voilà, on a plein de personnages très bien construits, qui sont touchants, l'écriture est simple. Et vraiment, on a l'impression de lire le roman d'une jeune fille qui aurait vécu une guerre, voilà, et qui nous le raconte.
Mais c'est pas, oui, c'est pas la Deuxième Guerre mondiale.
C'est une guerre hypothétique dans une période qui est proche de la nôtre, qui pourrait être celle qu'on vit maintenant. Donc voilà, le roman pour les ados est je pense très chouette, très facile à lire et très agréable.
Et il est court, finalement.
Il est court, ouais, il doit faire 250 pages.
Et on arrive à en faire un film ? On a rajouté des séquences dans le film ? Comment ça s'est
passé ? Alors non, on n'a pas du tout rajouté de séquences. Il a été adapté en 2014 par Kevin MacDonald, qui a fait notamment Le Dernier Roi des Costes.
Et le Big Mac. Ah. MacDonald. Ah, ça vous manquait mes blagues
on t'est pas habitué.
De bas niveau.
Trop de sérieux avec Corentin. Ouais.
Alors déjà, dans son film, il y a Saoirse Ronan. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, moi, c'est une actrice que j'adore. Elle joue dans Le Grand Budapest Hotel. Elle joue plus jeune dans Reviens-moi, qui est aussi une adaptation de bouquin. Elle a joué récemment dans Brooklyn, l'histoire d'une Irlandaise qui se retrouve à New York. Elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice pour ça. Enfin, elle a eu déjà deux Oscars. Elle doit avoir 22 ans. Elle est, voilà, c'est une, moi, je la trouve absolument incroyable, cette actrice. Elle est remarquable dans le rôle de Daisy. Donc déjà, je partais avec un petit a priori positif. Et ben voilà, le film est réussi dans le sens où il y a... Alors, vous allez dire, c'est pas forcément génial, mais cette petite naïveté qui fait tout le charme du livre et qui est aussi présente dans le film. Et donc, Kevin MacDonald, il a vraiment réussi ce truc de faire cohabiter ce monde un peu idyllique où ils sont heureux tous ensemble en... À la fois bon, dans le scénario, mais aussi dans la réalisation où on a des images un peu floues, on dirait un peu un rêve, c'est un peu voilà, ça scintille. Et puis hop, le gros moment de guerre où on a l'impression que tout est couvert de cendres, tout est sombre. Où là, voilà, ça casse complètement l'ambiance et on sent le rêve merveilleux qui se casse. Et je trouve qu'il a très très bien réalisé ça. Que pour le coup, il a modifié un petit poil l'histoire, mais bon, moi, ça ne m'a pas forcément perturbée. Et le film est beau et chouette en plus, bon, parce que moi, j'ai aimé l'histoire, mais je pense que ça peut toucher pas mal de gens. Il est pour ados, mais peut-être plus grand encore
que le roman.
Oui, parce que c'est un film quand même particulier. Il y a des scènes très dures, des fois très violentes. Ouais. Donc voilà, là, on passe peut-être sur le roman, je dirais, à partir de 13-14 ans. Sur le film un peu plus grand. Voilà, 15-16 ans, c'est bien. Mais voilà, je conseille autant l'un que l'autre. Peut-être aussi un peu pour les adultes, mais c'est là où j'ai du mal à trouver un public. Je pense, ouais, les ados quand même, les grands ados.
Les adolescents.
Les adolescents, ouais, un peu comme moi peut-être.
C'est ça. Ok, merci Pauline. Maintenant, c'est ma vie. C'est ça.
Maintenant, c'est ma vie, ouais, Meg Rozov.
Voilà, et le film sorti en 2014.
Ouais.
Et toi, Ludo, alors, qu'est-ce que t'en penses ? Des livres adaptés au cinéma ou du cinéma qui s'adapterait pour faire un livre ?
Alors, justement, c'est bien que j'ai pu arriver en retard dans cette émission. Comme ça, t'as pu regarder mes fiches et lire
exactement
ce que j'allais présenter.
C'était pour te faire une transition.
Oui, j'ai un peu triché pour cette émission, mais je le savais pas à la base. Je pensais vraiment que c'était un roman qui a été adapté au cinéma. Et en fait, je me suis rendu compte en travaillant cette émission que non, ça a été un script pour le cinéma qui a été édité en tant que script. Sauf que, connaissant l'auteur, c'est un roman comme les autres qu'il a pu écrire, voire meilleur encore. C'est un de mes romans préférés de cet auteur qui est Charles
Bukowski.
Exactement. Alors, Charles Bukowski qui a écrit un script pour le cinéma qui s'appelle Barfly, qu'on peut traduire par pilier de bistrot. Connaissant la personne, mais c'est pas étonnant. Il s'agit d'un film où l'auteur, donc en l'occurrence Bukowski, a pu participer à la réalisation. Il était là pendant tout le film. Il a même fait une séquence où on le voit à un moment de trois quarts dans une scène de bar. Et c'est peut-être pour ça que l'adaptation cinématographique est excellente, en plus des acteurs qu'il y a dedans. Barfly, dedans, il y a notre ami Mickey Rourke qui campe le rôle de Bukowski. Et il est vraiment, vraiment, vraiment très bon dedans. Il faut dire que la vie de Mickey Rourke, surtout à cette époque, oui. Alors, j'ai plus la date, je vous la donnerai après, je crois que c'est sorti en 80 et quelques. Mickey Rourke était déjà pas mal attaqué à cette époque. Donc il a pu bien se fondre dans le personnage. Et également Faye Dunaway qui joue le rôle de Wanda Wilcox. Faye Dunaway qu'on trouve dans de nombreux films dont j'ai perdu la trace. Je ne me rappelle plus du tout dans quel film, mais c'est une actrice extrêmement connue. Elle va nous le dire.
1987.
1987 pour le film, et tu vas pouvoir nous dire. Oui. Donc le personnage de Wanda représente finalement Jane Cooney-Baker que Bukowski rencontre réellement à 26 ans dans un bar de Los Angeles. Elle en avait 36 ans. Elle était également ravagée par l'alcool comme lui. Ils auront ensemble une histoire passionnée, violente. Ils se retrouvent que pour boire ensemble. Donc c'est l'époque où Bukowski écrit des nouvelles qui lui sont refusées. Jane meurt quelques années plus tard, veillée par Bukowski, qui allait ensuite connaître le début de son succès. Et donc ce film, c'est vraiment cette période noire où il se retrouve dans les bars, il se quitte, il rencontre d'autres personnes. C'est extrêmement bien joué avec des personnages qui sont vraiment développés. Barfly, Bukowski. Alors, il y a plein d'histoires très drôles en plus sur ce film. Le réalisateur s'appelle Schroeder. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Donc il s'est battu sur son projet. Il a menacé le producteur de se couper un doigt avec une scie électrique parce qu'il voulait plus participer à donner de l'argent pour ce film. Le chantage a réussi. Il y a Francis Ford Coppola qui est intervenu en disant moi je mets de l'argent pour que le film se fasse parce que je suis fan de Bukowski, qui a été décisif. Voilà, c'est toute une série. Ouais, c'est complètement fou. Et d'ailleurs Bukowski écrira plus tard Hollywood, qui retrace un peu cette histoire, ses premiers pas vers le cinéma. Ces personnes qu'il rencontre qui sont pas du tout de son monde, ses difficultés à sortir le film. C'est un autre livre, Hollywood, qui est également sympa. L'histoire de ce film, donc vous l'avez compris, c'est une partie de la vie de Bukowski. Mickey Rourke donc joue le rôle d'Henry Chinaski, l'alter ego de Bukowski, dans un Los Angeles rendu intemporel où la nuit semble s'étirer à l'infini sur ces créatures. C'est extrêmement sombre. Les décors sont réels, ils ont tourné dans de vrais rats de Los Angeles. Chinaski, un écrivain sans véritable passion, boit, écrit des poèmes, arrive même parfois à ramener une fille à condition qu'elle soit plus ivre morte encore que lui-même. Il fréquente le Golden Horn, un bar de Los Angeles, où il se bat régulièrement avec Eddie, un serveur aussi musclé qu'arrogant. Et les clients parient même sur leur bagarre, et de toute cette agitation, il rencontre Wanda, donc Faye Dunaway, qui est en instance de divorce et chez qui ils s'installent. Donc ils essayent de mener une vie régulière, ils s'accrochent l'un à l'autre dans une véritable vraiment explosion de sentiments avec de l'amour, de l'ivresse, de la violence, de la folie. Et finalement, on se rend compte que leur recherche de travail reste vaine. Et au fur et à mesure du film et du livre, Bukowski vit une aventure avec une riche éditrice qui a publié un de ses textes et qui veut devenir sa mécène. Donc cette tierce personne qui s'introduit dans l'histoire, qui est prête à tout faire basculer. Bon, je vous en dis pas plus, sinon ça sert à rien d'aller voir le film ou de lire le livre. Et le couple continue plus ou moins à être ensemble et vous verrez la fin si vous allez voir le film en cassette VHS, parce qu'il ne doit plus y être en numérique.
Peut-être qu'ils l'ont
ou en lisant. Ouais, c'est vraiment. Il a été présenté au Festival de Cannes l'année de sa sortie, ce film d'ailleurs. En 87. Non, c'est vraiment un très, très. C'est un de ses meilleurs. C'est un de mes livres préférés de Bukowski. Parce que c'est une réelle histoire. Du coup, il s'est donné un cadre. Alors, il y a vraiment. C'est un vrai roman. On sait que Bukowski, c'est un adepte des nouvelles, des histoires un peu irréelles. Ça part un peu dans tous les sens. Et là, il a vraiment travaillé sur sa personne, sur les personnages, sur la rencontre. C'est une véritable histoire d'amour, une belle rencontre, et c'est très beau. Et le film est époustouflant par le biais des acteurs qui joue dans ce film.
L'actrice, elle avait joué dans Bonnie and Clyde.
Voilà.
Faye.
Dunaway.
Dunaway.
C'est tout ?
Non, elle a fait plein d'autres choses, mais c'était le plus notable, le premier que j'ai vu. Bonnie and Clyde, l'affaire Thomas Crown, Little Big Man, Chinatown, La Tour Infernale, Network.
Ouais, quand même. Hein.
Voilà.
elle est fabuleuse.
Si tu veux, parce que tu parles d'une histoire de couple, tu les imagines quand même assez jeunes, tout ça. Il faut se dire qu'aujourd'hui, elle a 75 ans. Donc, c'est pour donner l'image de elle en 87 et non pas...
Donc, en 87, elle avait quel âge ?
Ben, moins... Ah, moins de 30. Oh là là.
75 moins 30 ?
Ouais.
Ah, mais donc, elle en avait 45.
Elle était bankable encore.
45, elle jouait une femme de 36 ans, donc ça va.
Oui,
hein,
ça va. En
fait, et Mickey Rourke, ça devait être, il devait avoir plus de 26 ans, lui, par contre.
Il a à peu près le même âge, non ?
Oui, certainement.
Ça,
oui.
À peu près.
Ouais, il doit être pas loin d'être classeur.
Ouais.
Et oui, Mickey Rourke, c'est un de ses meilleurs films avec le... Mais voilà, c'est des rôles qui lui conviennent. C'est comme le film du catcheur qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, où il joue un catcheur sur le déclin qui revient, où il est vraiment époustouflant dedans. Mais là, voilà, c'est un rôle fait pour lui sur mesure. Il y a Bukowski derrière qui le drivait et qui d'ailleurs a reconnu que dans ce film, c'était vraiment lui, quoi. Il s'est vu à travers Mickey Rourke. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas quand on adapte des films. Et je pense que le fait que voilà, l'écrivain soit présent sur le tournage de A à Z, voit les rushs, voit le jeu d'acteur, c'est une bonne chose. Alors ça peut être une mauvaise chose s'il est un peu trop présent, mais je pense que Bukowski réussissait à faire la part des choses. Voilà, Barfly, allez acheter toute vitesse ou à commander, parce qu'à mon avis, il ne doit pas être dans beaucoup de librairies. Et le film, ouais, il doit pouvoir se trouver.
On peut l'avoir, Héloïse, je suis sûre.
Oui, c'est tout à fait le
genre
de
la soupe aux choux, un livre, elle nous a dit.
C'est pas le même type de boisson.
Oui, mais elle peut avoir marre.
Allez, Valérie, toi qui n'as pas présenté de livre encore et qui a plein de notes.
Non, j'ai pas plein de notes, j'ai quatre lignes. En fait, la semaine dernière, quand on a fait l'émission, qu'on a présenté ce thème, je dis « Oh mon Dieu, mais je sais pas, moi je crois que je connais pas de livre qui a été adapté en film ». Et en fait, ce que je disais à Pauline hier soir, c'est qu'il y en a des centaines qui sont extra.
Lequel choisir ?
Oui, voilà. Alors, il y en avait un, c'était vraiment... Il fait partie de mes livres préférés, mais j'en ai déjà parlé. C'était Singe et Sabour, Pierre de Patience. On en avait déjà parlé. Le film, il est passé au Ciné-Club, c'est un cinéma iranien, donc je ne vais pas y revenir dessus. Après, un que j'ai beaucoup aimé, mais alors c'était... j'ai adoré le livre, j'ai adoré le film, mais par contre, a priori, les avis étaient assez radicaux là-dessus. C'était l'adaptation de L'écume des jours de Boris Vian. J'ai adoré le livre et j'ai trouvé que le film était avec Audrey Tautou, Omar Sy. Enfin, c'était délirant, c'était barré, comme du Boris Vian. Après, le problème, c'est Boris Vian, quand il écrit, il est complètement fou. Et moi, je ne m'imaginais pas la folie de L'écume des jours de la même façon que le film. Mais ce n'était pas gênant parce que entre le jour où j'avais lu L'écume des jours, enfin, l'année où j'ai lu L'écume des jours et l'année où j'ai vu le film... mon esprit avait changé aussi, donc ça allait bien, mais c'est un film et un livre qui méritent d'être vus, voilà, qui sont vraiment bien. Mais mon coup de cœur, et j'y repensais il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais oui, mais en fait, j'ai lu le livre, j'ai vu le film.
La soupe aux choux.
Non. Ah. Si je vous dis Au capitaine, mon capitaine.
Et le cercle des poètes disparus.
Ouais. C'était
un bouquin. C'était un livre.
Il y a Au nom de la rose aussi, où le film est excellent.
Ouais.
Si bien que
très bien. Il y en a... En fait, il y en a énormément. Et quand on regarde, il y a même des adaptations de BD.
Gardien de ma vie.
Joël Batz. Ils l'ont pas encore fait.
Il y
a un créneau à prendre.
Ouais.
Non, après, il y a eu même des... Bon, il y a eu tout un tas de BD. Persepolis aussi, qui a été superbement bien adapté. Et après, il y a tous les trucs pour enfants. Les contes d'Anderson qui ont été souvent... adapté.
Platoon.
Platoon aussi.
Platoon, ouais. J'ai pas lu le livre, mais je pense qu'il est excellent.
Ah, je sais pas. Après, il y a toutes les qui ont été adaptées en film érotique, je plaisante pas pour une fois. C'est les Serpei et les Druna aussi, de Manara.
Je connais pas.
C'est bien, c'est que tu ne lis pas de la littérature BD érotique et ça a été adapté en film érotique.
On a fait une émission dessus, ouais.
Non.
Si on a fait une émission, non.
Sur la lecture érotique.
Ouais, non, peut-être pas. Ah, mais il faudrait la faire.
J'ai
vu des BD un peu.
Peut-être pas entre 12h30 et 13h30. C'était l'expo qu'on avait été voir de, je sais plus comment il s'appelait, le dessinateur qui dessinait, c'est cru. Voilà, et c'est vrai que c'est il y a eu énormément de choses. Tous les Astérix et Obélix, il y en a eu tout un tas qui ont été adaptés de BD en film. Il y a eu les Orgueils et Préjugés, il y a eu Autant n'emporte le vent, il y a eu Le Rouge et le Noir. Il y en a eu énormément qui je suis en train de chercher là le qui se passe dans les mines dans le nord.
Les Corons.
Oui, c'est ça.
Germinal. Voilà.
Germinal. Et il y a eu énormément de...
Bien, Pauline.
Merci. On voit celle qui est encore dans le système scolaire.
Oui. Oui.
Voilà. Et c'est vrai que c'était difficile de choisir entre tout ça.
Ouais. Non, mais ça, c'est pas une présentation de
livre. Non, mais c'est parce que j'ai pas de...
C'était une très belle intervention, donc maintenant tu nous présentes quoi.
Non, c'est parce qu'il y en a, tellement, c'est difficile de rentrer dans le, détail de tout ça. Non, mais j'en ai présenté un tout à l'heure, j'ai parlé de Gatsby le Magnifique. Gatsby, The Great Gatsby. Oui.
Mais Gatsby, voilà. Il a été adapté, je sais pas combien de fois.
Oui, mais avec Leonardo DiCaprio. Ouais. Parce que quitte à regarder un film, autant se rincer l'œil.
C'est vrai.
Voilà.
C'est pas
non,
faux.
Non, et si t'étais là, tu aurais entendu que je disais que le film, sans avoir lu le livre, je n'aurais pas été le voir. A contrario.
Ah oui, mais moi aussi. Hein. Ouais. Oui, bien sûr.
Après, tu as des auteurs qui ont inspiré des. Par exemple, tu as Francis Scott Fitzgerald, pour ne pas en parler, puisque c'est lui qui a écrit le Gatsby. Il a énormément inspiré Woody Allen. Et moi, par exemple, je suis une inconditionnelle de Woody Allen, Minuit à Paris.
Ah bah oui.
Il y est dans le film. Et c'est un lien. Pour moi, c'est aussi de la littérature et du cinéma.
Très, très grand acteur dans Minuit à Paris. Allez, Pauline.
Ouais.
Owen Wilson.
Wilson, voilà.
Oh là là.
Il est extraordinaire. Enfin, c'est étonnant, il a toujours des acteurs super, Woody Allen. Mais là, en l'occurrence, ça fait bien ressortir l'esprit Fitzgerald, même dans. Parce que on pourrait presque croire que Minuit à Paris, c'est une adaptation de plusieurs livres de Fitzgerald. Et je suis en train de chercher le.
Mais c'est ça, oui.
Son livre, Zelda.
Voilà.
Le livre Zelda, tout simplement. On le retrouve aussi un petit peu dans certains passages du film. Donc, c'est vraiment l'esprit Fitzgerald, souvent dans certains Woody Allen que j'adore.
L'attrape-cœur, ils ne l'ont pas adapté en.
De Boris Vian ?
En film ? Non, pas de Boris Vian.
De. Pardon.
N'importe
Sullivan quoi.
De Sullivan.
Non, j'y étais pas.
Ouais, je crois que c'est ça.
Ouais.
Non, parce que ça aussi, c'est un bon livre.
Ouais. Ouais. Il y a des créneaux encore, il y a des super livres.
Il y en a énormément. Ouais.
Après, il y a des choses, moi je ne sais toujours pas pourquoi ils les ont adaptées de l'un à l'autre.
Il y en a qui ont totalement loupé. Moi qui suis fan de John Fante, ils ont adapté Bandini avec Antonio Banderas d'ailleurs. Ouais. Mais il y a très très longtemps, ça devait être le début de la carrière de Banderas. Ce film n'a pas dû la faire décoller d'ailleurs. Le film n'est pas au niveau du livre.
Hein.
Oui, oui. C'est souvent... Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adaptations, de romans fantasy, de science-fiction. Je ne sais pas si c'est plus simple à faire ou si ça rapporte peut-être plus d'argent avec tous ces effets spéciaux.
Et puis, c'est hyper visuel aussi,
c'est
je pense.
C'est hyper visuel, oui.
C'était Dune, oui, qui avait un livre qui était super et qui, un film, avait fait un gros flop. Et là, ils sont en train de le ressortir, du coup. Pour
avec David Bowie.
Il y a de la matière, hein.
Oui, je crois.
Dune, c'est avec David Bowie, oui.
Et avec Dale Cooper, dont je parlais tout à l'heure, mais dont je ne me rappelle plus le vrai nom. Mais...
Joe Cooker. Et maintenant, on a même l'impression qu'on écrit des livres en pensant à l'adaptation cinéma.
C'est exactement ce dont je pensais. C'était le livre le film-livre Mange, Prie, Aime, où c'est qu'il y avait Julia Roberts qui jouait dedans. C'est un truc un peu à l'eau de rose. Et tout le monde me disait, mais il faut vraiment que tu lises le livre. Le film, ça ne retranscrit pas. Ben, je me suis autant ennuyée à lire le livre.
Ah, tu l'as lu quand même?
Je l'ai lu parce que...
Ça a fait un bruit quand même à une époque où on disait qu'on allait prendre plaisir à le lire.
Du tout, c'est vraiment très... c'est la vision de l'Inde par les yeux d'Américains qui ne doivent pas sortir souvent de New York. Ouais. Voilà. Moi, ça ne m'a pas du tout transporté. Enfin, sur la littérature indienne, il y a autrement mieux. Enfin, sur cet esprit un peu Bali, un peu méditation, il y a quand même largement mieux que ça.
Et oui. Voilà.
Et je pense que ça fait partie des livres qui... C'est comme la... avec le hérisson. Je ne l'ai plus.
L'élégance.
L'élégance du hérisson. C'est pareil, c'est des livres, j'ai l'impression, qui ont été faits en simultané, en fait. Le livre... Est-ce que ce n'est pas le scénar, en fait?
Tu as vu les deux? Tu as lu et vu?
Oui, oui.
C'est avec Balasco, non?
Oui. Et là, par contre, j'ai préféré le film que le livre.
Ah.
Voilà.
Très bien, ça.
Mais je suis un inconditionnel de Balasco aussi.
Ouais, c'est pour ça. Ouais.
Ouais. Les a priori positifs, c'est qui ça. Nous font déraper,
oui,
des
ça.
Fois peut-être.
C'est ça. Donc c'est vrai que il y en a énormément en fait. Et quand on s'y intéresse, on se rend compte qu'il y en a des. On lit certainement des fois des choses qui ont été adaptées déjà en film. Et à l'inverse, on doit regarder des films qui sont extraits de livres.
Hein. Ouais. Ah oui, et puis des choses, des fois, je me suis souvenue, justement, en préparant l'émission, que petite, on regardait avec ma famille très souvent un film avec Daryl Hannah, incroyable déjà, qui s'appelait Le clan de l'ours des cavernes. Ouais. Daryl Hannah, la sirène, là. Si vous la voyez.
Non.
Non.
Bref, une blonde qui a joué Splash. L'actrice de Splash.
Avec Tom Hanks.
Voilà.
T'as vu Splash ?
Inconditionnel des années 90.
Ah bon ? Oh là là.
Voilà, qu'est l'histoire d'une femme des cavernes qui une des premières Homo sapiens face au Néandertal.
D'accord.
Donc c'est quand même une histoire un peu très particulière et qui est tirée d'un livre. Donc, nous, moi, je le regardais tout le temps petite et j'ai lu les livres. Qui sont une série qui a été écrite par J.M. Howell, alors une femme, une américaine. Mmh. Et ça, l'histoire continue dans les livres. Donc, on prend vachement plaisir à lire les livres, même si, bon, au bout d'un moment, l'histoire s'essouffle un peu. Elle a été un peu peut-être trop loin. Mais les premiers tomes sont extra. Et le film, du coup, m'a portée vers les livres. Et les livres m'ont, du coup, beaucoup plu. J'avais l'impression de pouvoir survivre dans la nature après. Enfin, c'était incroyable. Chasser un cerf, voire même un bison, sans problème.
Oui, parlant de livres-films, il y avait Into the Wild aussi qui avait fait, qui avait fait le grand bruit, qui était. Alors, je miserais presque que le film serait sorti avant le livre, finalement.
Il me semble qu'il est sorti.
C'est possible.
Après. Moi, après, je dirais après. Je pense l'avoir lu plusieurs années
avant de voir le film. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai vu le livre avec la jaquette.
Mais pour le coup, là, je conseille de lire le livre.
Le livre plus.
Oui. Il y a énormément de choses en plus. C'est qui est hyper vivant. Le film est très bien. Mais ça, le livre ne s'arrête pas uniquement à l'histoire du héros. Il y a des tas d'histoires de survie autour qui sont intéressantes. Même la vie du héros. On en sait un peu plus et c'est très touchant. Pour le coup, là, j'ai préféré le livre.
Le livre.
Il y a Sur la route qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi de Kerouac en film.
Tu l'as lu ?
Je l'ai lu, je l'ai vu. Ouais, j'ai préféré le livre.
Moi, je me suis ennuyée dans le film.
Le film, il m'a un peu ennuyé. Ouais. Après, le livre, des fois, il y a des longueurs aussi. Hein. Sur la route, ce n'est pas le meilleur des Kerouac. Mais bon. Ok, super. Eh ben, c'était bien cette petite discussion pour arriver à 1h30.
Oui, non, on n'a pas meublé, c'est marrant.
Non, c'était une vraie discussion.
Mais c'est vrai qu'il y a trop de choses, il y a trop de matière pour pouvoir.
Arrête, Valérie,
si,
s'il te plaît.
Non, d'habitude, Héloïse, elle nous fait une sélection de livres, on lit nos livres, on en parle. Là, c'est vraiment intéressant et ça montre d'ailleurs le lien qu'il y a fort entre le cinéma et la littérature. Du reste, dans la semaine de M-Lire, mardi soir, il proposait Fahrenheit 451.
Je sais pas.
Fahrenheit,
412.
Voilà. Allez. Et ça montre bien qu'il y a un lien fort. Sinon, dans une semaine dédiée au livre, on proposerait pas des films. Voilà.
Exactement. Donc là, on va reprendre nos créneaux habituels, à savoir dans 2 semaines, la lorgnette, une petite semaine pour vous reposer. Alors c'est bien parce qu'on loupe des émissions, on n'en fait pas pendant un mois et tout d'un coup, on en fait chaque semaine.
C'est ça.
Allez, mais là, dans 2 semaines, c'est les livres américains, je crois, dans 2 semaines, c'est ça ?
C'est le Japon ? Ouais, le Japon, il me semble.
Qu'on a le Japon.
On m'a rien, donné pour le Japon.
Heureusement que
j'ai une grande culture japonaise. J'en ai pas choisi, mais j'en ai dans ma bibliothèque. Vous inquiétez pas.
Les livres américains aussi.
Non, je vais parler de quelqu'un qui aurait dû être le prix Nobel de littérature, qui ne l'a pas été cette année, mais c'est très bien, Bob Dylan aussi, ça me plaît. Ok, allez, merci les filles, on se retrouve dans 2 semaines alors.
Bon week-end.
Allez, ciao.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.